Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine des méthaniseurs agricoles, puisque ça va se démultiplier, paraît-il, en parallèle avec les besoins énergétiques de la France. Donc ces méthaniseurs agricoles qui sont des petites usines qui transforment des produits agricoles et souvent des produits nobles, des produits que habituellement on mange, par exemple des céréales, pour faire du gaz avec. Alors c'est une volonté de créer donc ces méthaniseurs en nombre important en France, hein, depuis des directives européennes qui sont déclinées dans différents textes français. Alors on peut d'abord s'étonner que ce soit des directives européennes, puisque la question de l'énergie en Europe n'est pas centralisée. Ça ne fait pas partie de la politique européenne. Pour autant, on a ça qui tombe là. Et d'ailleurs, pourquoi ça ne fait pas partie de la politique européenne en dehors des obligations de privatisation ? Eh bien, c'est tout simplement parce que les modes de fonctionnement des pays européens sont très différents. Et pas seulement par rapport à la présence ou l'absence de nucléaire, par rapport à la densité de population, et globalement, on peut dire que tous nos voisins consomment 4, 5, 6, 7 fois plus de gaz pour faire de l'électricité que nous autres en France. Donc on en consomme, pour faire du gaz en tout cas, très peu dans notre pays en pourcentage, 5%, par rapport à des pays où ça monte jusqu'à 50%. Alors, première curiosité. Deuxième, ce que j'appelle curiosité, c'est le coût de fabrication de ce gaz en rapport avec l'utilisation de gaz fossiles, qu'ils viennent aujourd'hui de Norvège ou d'hier de Russie. Il y a un rapport du Sénat de 2021 qui est tombé, donc qui a été voté à l'unanimité. Le contenu de ce rapport ne se discute pas et qui dit que le gaz agricole coûte 5 fois plus cher que le gaz fossile. Et la différence, c'est l'impôt, tout simplement, via des aides diverses, toute une série d'aides, j'en ai compté jusqu'à 8, qui supportent, en fin de compte, cette différence de soit d'achat de gaz fossile, soit de production de gaz agricole. Donc, autrement dit, pour le dire clairement, c'est un gouffre financier de ce côté-là. Et d'ailleurs, le haut commissaire au plan, là, récemment, vient de dénoncer ce gouffre financier. Donc, c'est rare qu'un haut fonctionnaire vienne dire publiquement quelque chose qui contredit la politique générale, mais c'est le cas. Et on a un certain nombre de discours qui voient que finalement, ce front uni pour mettre en valeur ce gaz agricole, eh bien finalement, c'est un peu en train de se fissurer. Alors les perspectives, sur le plan agricole précisément, c'est de multiplier par 4 d'ici 2030, mais 2030 c'est demain, le nombre de méthaniseurs, ce qui est déjà énorme. Et la place du gaz dans notre consommation est pourtant une volonté de réduire finalement l'utilisation de ce gaz. Donc on a un petit peu de mal à comprendre. Et il y a eu ces jours-ci, c'est pas vieux, une décision du Premier ministre qui a été relayée par les médias, qui est d'interdire le chauffage au gaz dans les constructions neuves d'ici l'année prochaine. Donc là, vous voyez, il y a quand même des contradictions. Faire du gaz avec des produits agricoles et de l'autre côté, interdire le chauffage au gaz à partir de quasiment maintenant pour tout ce qui est construction neuve. Alors, il y a aussi des annonces qui vont plus loin que 2030, qui vont jusqu'à 2050, dont l'importance fait que notre paysage agricole serait bousculé. On parle de 11 millions d'hectares utilisé pour faire du gaz agricole, avec une justification pour aller donc davantage vers l'agriculture intensive, puisque là, ce ne serait pas mangé, ce serait digéré en quelque sorte, fermenté dans ces digesteurs-là, avec en parallèle un risque fort d'importer des denrées alimentaires qui viendraient donc de l'étranger, puisque une part non négligeable de notre terrain agricole, finalement, serait mobilisée pour faire du gaz. Donc ça paraît un peu fou, quoi. Hein, on va faire du gaz et on va importer de la bouffe. Donc c'est quand même très curieux comme choix. Alors, on a aussi le sujet de l'indépendance énergétique. D'ailleurs, les textes européens vont là-dessus, mais ils vont là-dessus au niveau européen, pas au niveau national. Et d'ailleurs, c'est impossible de le faire au niveau national, puisque c'est précisément le traité de Maastricht, la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire la privatisation de tout, pratiquement. Hein. Et donc, on ne peut pas dire tout et son contraire. On est dans une phase de construction de Maastricht depuis 1992, donc ça fait quand même plus de 30 ans, qui est de tout privatiser et de casser le monopole de services publics. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, puisque depuis 2007, Gaz GDF, entreprise nationalisée, n'existe plus. Et d'ailleurs, le réseau de gaz qui passe dans notre département appartient à une entreprise privée qui s'appelle Terega. Alors, pas seulement pour le gaz, hein, puisque à l'origine, on a créé Total, puis on a créé Elf pour maîtriser ces questions de politique énergétique. Et depuis, on a saboté Elf et Total, il n'y a pratiquement plus d'actions qui viennent de l'État pour piloter les conseils d'administration. Donc, et pour l'électricité, vous le savez sans doute, en 1946, la création, donc à l'époque, d'EDF-GDF, entreprise donc nationalisée pour répondre aux besoins de la nation, eh bien, elle est sabotée par petits bouts. Et là, je viens de dire qu'en 2007, non seulement il y a eu la séparation entre EDF et GDF, mais il y a eu la privatisation intégrale de GDF. Donc, la politique européenne ne remet pas en cause tout ce qui va contribuer précisément à la dépendance par rapport aux multinationales, et c'est d'ailleurs le cas, puisque la plupart des méthaniseurs qui ont des difficultés sont rachetés par les multinationales, et ça reste les multinationales qui distribuent de toute façon. À ce sujet, je voulais revenir sur le gaz russe. En réalité, c'est une mauvaise appellation, puisqu'on devrait dire le gaz qui vient de Russie, ce n'est pas pareil, puisqu'il est propriété des multinationales, dont une que vous connaissez bien, eh bien, c'est tout simplement Total. Il est d'ailleurs fort peu probable que les robinets restent fermés dans l'hypothèse de la fin de la guerre en Ukraine. Là, on a une mesure de rétorsion que vous connaissez. Mais pourquoi garder des robinets fermés demain si la paix est retrouvée en Ukraine avec des multinationales qui peuvent proposer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des coûts d'achat du gaz 4-5 fois moins cher que le gaz agricole? Ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Voilà pour cet aspect des affaires. Je voulais aussi revenir sur les gaz combustibles. En général, le méthane, mais le méthane à la campagne, on ne sait pas ce que c'est, sauf au cul des vaches, mais ça, on n'a pas encore su trop le récupérer. Et on connaît, par contre, en ville, ce qu'on appelle le gaz fossile ou le gaz de ville, hein, où on l'appelle aussi gaz naturel. Donc, c'est le méthane, c'est la même chose. Hein. Et puis, on connaît aussi le butane et le propane. Alors, historiquement, ce gaz de ville, gaz fossile, ça s'est appelé aussi le gaz de houille, puisqu'on avait ce qu'on appelait à l'époque des usines à gaz qui ont surtout fonctionné autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc, de faire d'aller puiser du gaz fossile dans le sous-sol, de le faire avec de la houille ou de le faire avec des produits agricoles, ça reste du méthane. Donc on le connaît, ce gaz, enfin ses qualités. Et je voulais justement y venir sur ses qualités, puisque le butane et le propane ne seront pas remplacés par du méthane. Globalement, ce n'est pas trop possible. Tout simplement parce que le butane est 3 fois plus énergétique que le méthane et que le propane, c'est 2,5 fois plus énergétique que le méthane. On ne verra donc pas des bouteilles de gaz triplées pour remplacer du méthane, des bouteilles de gaz méthane pour remplacer une bouteille de butane. On ne verra pas non plus demain des bagnoles qui aujourd'hui roulent au GPL, gaz de pétrole liquéfié, le GPL, qui seraient remplacées par des bouteilles de méthane, parce que si c'était le cas, il faudrait tripler les réservoirs pour mettre donc des bouteilles de méthane à la place d'une bouteille de GPL qui existe aussi. Et vous devez vous souvenir qu'un des problèmes des voitures au GPL, c'est justement l'encombrement, puisque le gros grief qu'il y a dans la matière, c'est déjà le volume que peut prendre une bouteille au GPL. On ne va pas tripler donc cet espace pour la faire rouler au méthane. Et où on en est du GPL précisément ? Eh bien, aujourd'hui, les ventes au GPL qui ont un intérêt, notamment en termes de pollution, ne dépassent pas les 1% du parc automobile. Donc, ce que je voulais expliquer à travers ça, c'est qu'il n'y a pas d'avenir complémentaire pour le méthane par rapport au butane et au propane. On ne parle pas de la même chose. Et pour ceux qui se chauffent au propane et qui ont dans leur cour de jardin une citerne de gaz, c'est du propane pour l'essentiel, il faudrait pas tout à fait tripler, mais multiplier par 2,5 fois le volume pour avoir la même quantité d'énergie à utiliser pour se chauffer. Donc on voit bien que de ce côté-là, ça risque fort de ne pas fonctionner. Et puis, bien sûr, il y a le gaz de ville, mais le gaz de ville, il est évidemment à la ville, et il y a quand même très peu de communes. Des petites villes, ça peut aller jusqu'à celle de la taille de Caussade, mais pas en dessous, qui ont des réseaux d'utilisation de gaz, ex-GDF, puisque ça n'existe plus, GDF, pour les particuliers, réseau désormais privé, comme je viens de l'expliquer. Alors, il y a eu quelques coups de pub avec des bus qui fonctionnent. Alors, on utilise l'utilisation biogaz. Ça n'a rien de bio, mais c'est comme ça qu'ils le présentent. Mais bon, c'est plus pour des effets d'annonce, pour la photo, puisque la problématique, comme je l'expliquais, du stockage en quantité équivalente pour l'énergie d'utilisation de méthane en substitut de l'essence ou du gasoil, eh bien, ça ne marche pas, sauf à avoir des volumes démesurés de stockage. Alors, on a connu, on n'invente rien en fait, les voitures au méthane. On les a connues pendant la guerre, ça s'appelait le gaz forestier à l'époque, hein. Et ça a été évidemment abandonné dès que notre pays a pu réaccéder à l'essence et au gasoil. Ça a été des substituts de fortune pendant le conflit, pendant l'occupation allemande, où on n'avait plus accès aux ressources pétrolières habituelles. Mais dès que la guerre a été terminée, ces véhicules au méthane ont disparu aussitôt. On les voit sur les vieilles photos, si vous vous en souvenez, dans certains films, où on voit des tractions avec 4 cylindres de méthane sur le toit. Donc, c'est particulièrement spectaculaire. Pour en rester au gaz de ville, il n'est pas prévu, d'ailleurs, en France, d'étendre le réseau de distribution du gaz de ville au village et à la campagne. Ça existe dans certains pays. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, ce n'est pas prévu en France. Alors, dans un film de propagande pour le projet de méthaniseur dans le 82, sur la commune de La Capelle-Livron, on nous explique qu'un méthaniseur de cette taille alimente l'équivalent de 2500 foyers. Alors, c'est complètement ridicule pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une fois que le gaz est injecté dans le réseau qui s'appelle aujourd'hui Terrega et qui s'appelait hier Gaz de France, eh bien, évidemment, il n'y a pas de séparation, on injecte et puis c'est tout. Or, 29% de ce qui est injecté dans les réseaux de gaz seulement va dans les foyers et le reste va dans l'industrie, les collectivités locales, le tertiaire, etc. Donc moins d'un tiers. Donc on ne peut pas affirmer que ça alimenterait 2500 foyers puisque quand on injecte dans le tuyau, ça ne va pas, en tout cas pour une petite partie seulement, dans les foyers. Mais même si la totalité y allait, c'est une hypothèse d'école, eh bien, on n'y retrouverait pas du tout ce chiffre de 2500. De toute façon, on connaît la consommation des foyers équipés tout gaz pour une maison de 100 mètres carrés avec un enfant. En moyenne sur l'année, c'est 1,31 kW pour ceux qui sont tout gaz uniquement. Donc, on peut faire les calculs dans tous les sens. On voit qu'on est très loin d'arriver au chiffre de 2500, sauf si on a mis dedans des foyers qui n'utilisent pas le gaz. Alors là, évidemment, on peut sortir tous les chiffres que l'on veut. Donc, de faire appel finalement aux gens pour leur dire « Mais vous vous rendez compte, l'équivalent de 2500 foyers, avec quand même un gros oubli qui est de taille et dont je viens de parler, c'est que de toute façon, si les réseaux de gaz ne vous concerne pas parce que vous habitez dans les villages ou à la campagne, ça ne change strictement rien au problème puisqu'on continuera soit à vous livrer du propane si vous chauffez au gaz, soit vous continuerez d'utiliser des bouteilles de butane, mais il n'y aura pas, à mon avis, avant longtemps, de bouteilles de méthane à votre disposition pour les raisons que j'ai expliqué, un produit qui n'est pas inintéressant, mais qui est quand même nettement moins énergétique. Voilà quelques aspects sur le plan économique énergétique. Il resterait à parler du rôle de l'agriculture. Est-ce qu'on veut aller plus loin dans l'agriculture intensive ? Il resterait à parler de l'impact environnemental, des risques industriels, puisque ce sont quand même des installations sensibles, des nuisances, des riverains, etc. Mais je m'arrêterai là pour cette chronique en ne parlant que de l'aspect économique. Et au sujet des méthaniseurs, je voulais vous annoncer qu'une manifestation est prévue le samedi 30 mai à partir de 10h30 avec une marche pour le vivant, suivie donc d'animations et d'une auberge espagnole à proximité du projet de construction d'un méthaniseur au lieu dit Saint-Péronis à La Capelle-Livron. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, à mi-chemin entre Quélus et Parisot. Donc une manifestation pour le vivant, pour d'autres alternatives que ce projet qui est particulièrement curieux pour ne pas utiliser un autre terme. Voilà, j'en ai fini et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.